Bonjour, et bien nous nous retrouvons avec Michel Bourgès-Monory, Raymond Richard au micro, pour l'émission Bienvenue en Europe. Alors, dans notre dernière émission, c'était avant un Conseil européen, et il était question de la Grande-Bretagne. Alors, ce Conseil européen a eu lieu, il y a eu des grandes négociations à Bruxelles entre David Cameron et les Européens, puisque la menace, disait-il, c'était de sortir s'il n'y a pas un certain nombre de concessions qui sont faites. Donc on peut parler de cette affaire, d'autant plus que David Cameron est venu ces jours-ci en France pour commémorer les morts anglais, en tout cas respecter ces tombes. Alors je trouve que c'est quand même un peu dommage que notre vision politique, là, ce soit surtout aller vers des tombes. On aimerait mieux quand même que ce soit orienté vers l'avenir. Alors, qu'en est-il de l'avenir? Et notamment à propos du Brexit, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque personnellement, je trouve qu'on a été un peu généreux avec la Grande-Bretagne, mais que peut-être il faudrait qu'elle arrive à se plier aux règles européennes.
L'accord qui a été obtenu au Conseil européen du mois de février, effectivement, est vu d'une manière... Ça dépend des points de vue. Alors, certains disent que les Anglais n'ont pas obtenu grand-chose. Et pour preuve, il suffit de s'adresser à ceux qui sont justement pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et là, on a en Grande-Bretagne une grande partie de l'opinion publique qui est farouchement contre l'Europe et qui trouve que M. Cameron a obtenu pratiquement rien du tout au niveau des concessions. D'un autre côté, du côté dit des Européens, c'est l'inverse. On dit on a trop donné et accordé aux Britanniques et voilà où on en est. La réalité des choses, c'est que on a néanmoins créer des problèmes qui sont vraiment très préoccupants pour l'avenir de l'Europe. Vous parliez, vous disiez à l'instant qu'on se tournait plutôt vers les commémorations et le passé, et effectivement on manque de vision pour l'avenir. Et là on est en plein dedans, parce que lorsqu'un pays demande, et ça a toujours été le cas de la Grande-Bretagne, c'est pas la première fois qu'elle demande des concessions. On se souvient des paroles de Madame Thatcher, qui voulait sa monnaie back. La Grande-Bretagne a toujours eu une place un petit peu à part dans l'Union européenne. Alors ce qu'elle a obtenu au cours de ce Conseil européen, c'est de confirmer sa particularité, c'est-à-dire qu'elle serait un peu à part de l'Union européenne, elle garderait tous les avantages du grand marché, mais en revanche, elle serait exempte des obligations d'aller plus avant dans l'intégration européenne.
Et ceci, déjà, elle est quand même, n'est pas dans l'espace Schengen, a une monnaie différente, donc... j'entends et je me dis qu'à la limite, il peut y avoir des périmètres variables. Faire une Europe à géométrie variable, ça peut être intéressant.
Tout à fait, et c'est déjà le cas d'ailleurs. Donc il y a déjà une Europe à plusieurs vitesses. Le problème maintenant, c'est qu'on est dans un contexte qui est assez préoccupant et qui est un peu similaire, bien que l'histoire ne se répète jamais, qui est un peu le contexte des années 30. Crise économique, crise dans les populations vis-à-vis de des visions politiques, crise anti-parti, retour des nationalismes, repli sur soi. On a la crise des réfugiés à nos frontières et dans nos États. Il y a véritablement une situation générale qui est absolument mauvaise. Et c'est dans ce contexte-là qu'on se met à négocier avec les Britanniques pour, en fait, détricoter une partie des traités qui ont été signés, y compris par le Royaume-Uni. Et pour certains, eh bien, ce sommet du mois de février est vu exactement comme les accords de Munich avant-guerre. Traité d'un abandon de l'Europe qui se défait par petits morceaux, parce que l'exemple britannique fait qu'il peut être suivi par d'autres pour obtenir telle ou telle satisfaction au plan national. Donc c'est vu comme un sommet de la honte par beaucoup. Et effectivement, on peut se poser des questions, parce que Ce qu'a fait M. Cameron, c'est que, avec son référendum qui est prévu au mois de juin prochain, eh bien, s'il gagne, ça voudra dire qu'on peut obtenir de l'Europe des dérogations par rapport aux traités existants, bien qu'ils ont été ratifiés et signés. Et alors, c'est un peu l'Europe à la carte. S'il perd, eh bien, ça crée des problèmes également très préoccupants, d'abord pour le Royaume-Uni, mais aussi pour la crédibilité de l'Europe vue dans son ensemble au niveau mondial. Donc, tout le monde est perdant, mais parce que, parallèlement, il n'y a pas, on parlait justement des commémorations et du manque de vision, il n'y a pas, parallèlement, un projet européen pour justement surmonter cette crise et aller de l'avant, parce qu'on est ici dans une émission « Bienvenue en Europe » pour essayer de montrer
les aspects positifs
et pas uniquement négatifs.
Mais
ces aspects positifs, ils sont que, à chaque fois on l'a répété, mais c'est un manque d'Europe. C'est ça notre problème à l'heure actuelle, c'est un manque d'Europe. Et au fur et à mesure que l'actualité se présente, on s'aperçoit que c'est l'inverse qui se produit. On est en train de détricoter, de retirer des morceaux de l'Europe. Les Britanniques, ils s'en sont jamais cachés, ils veulent un grand marché et rien de plus. Sur le plan mondial, donc ils veulent faciliter les échanges, comme les États-Unis qui sont en train de négocier avec nous, avec l'Union européenne, pour faire un grand marché transatlantique. Donc les Britanniques, ils ne veulent que ça. Mais d'un autre côté, avoir le beurre et l'argent du beurre, bah, il y a quand même des limites. Et on sait très bien que si on ne va pas plus en avant dans la construction européenne, alors on va faire des pas en recul. C'est le retour des nationalismes, mais ce retour... C'est un retour qui se retourne contre chacun. Et c'est là où il faudrait arriver à montrer et à prouver aux citoyens, à tous les Européens, que ce manque d'Europe, c'est cela qui nous crée des problèmes. Ce n'est pas l'inverse. Or, le discours des nationalistes, le discours du repli sur soi, prétendent le contraire. Or, ce contraire est absolument faux. Et c'est ça qu'il faudrait arriver à faire comprendre à tout le monde.
C'est-à-dire que, la guerre est tellement loin maintenant que, finalement, un certain nombre de Français, puisque nous sommes en France, ont oublié justement les affres de la guerre. Et ce qui reste, c'est une Europe non sociale. On voit toujours l'aspect négatif. Et je crois qu'il y a aussi un déficit important d'information en ce qui concerne l'Europe. Et alors, justement, on évoquait la crise, mais il me semble que pour la première fois à propos de la crise, on a vu sortir, si j'ose dire, dans l'actualité, Donald Tusk. Finalement, jamais on n'entend ce monsieur. Et là, il a pris la parole pour parler de la crise des réfugiés. Il s'est rendu dans un certain nombre de pays d'Europe et pour illustrer l'Europe ou pour parler de l'Europe, on a autre chose que simplement le tandem Hollande-Merkel ou le tandem Hollande-Merkel qui s'étend éventuellement à David Cameron. Donc là, on a aussi quand même eu l'impression que dans la crise et notamment la crise des réfugiés, on évoquait l'Europe. Ce qui nous renvoie aussi à ces questions avec l'Angleterre, puisque la poche de Calais, c'est quand même bien la France qui joue vis-à-vis de l'Angleterre, la rétention des migrants qui veulent aller là-bas.
Oui, ben, M. Tusk a fait parler de lui. Donc M. Tusk, ces derniers jours, il a fait parler de lui parce qu'il a, notamment en rencontrant M. Tsipras à Athènes, il a fait une déclaration pour dire que les migrants économiques illégaux n'avaient rien à faire chez nous et que ce n'était pas la peine qu'ils risquent leur vie et perdent de l'argent avec des passeurs pour venir à l'intérieur de l'Europe où ils ne seront pas reçus. Ils ne seront pas les bienvenus et ils seront refoulés. Alors, M. Tusk donc, s'est fait connaître à travers cette action. M. Tusk est le président du Conseil européen. Alors, évidemment, quand on regarde les institutions européennes, c'est une invention de M. Giscard d'Estaing, le président du Conseil européen. Il y a le président, parce que c'est un peu confus. Il y en a qui critiquent en disant bah oui, mais l'Europe, c'est l'Europe, il y a au moins 5 présidents, on ne sait plus qui fait quoi. Il y a le président de la Commission européenne, il y a le président du Parlement européen, il y a le président de l'Eurogroupe, il y a le président du Conseil européen et il y a le président de la présidence tournante des États au sein du Conseil des ministres.
Ça en fait
ça en fait pas mal. Il y a également à côté...
Celui qui propose, c'est quand même le président de la Commission européenne.
C'est celui de la Commission européenne. Donc,
le président... L'ensemble du Conseil européen
non.
des chefs d'État.
Non, excusez-moi de repréciser.
Oui, alors là, reprécisons justement.
C'est-à-dire que c'est oui et non, en fait. C'est-à-dire que la Commission, à travers M. Juncker, propose des actions législatives et, sur base des traités, elle transpose directement des décisions, elle exécute les décisions qui sont prises par le Parlement européen et le Conseil, c'est-à-dire les États, pris conjointement. Donc la Commission propose et elle exécute. Mais en
Donc
tant
là,
que
en fait,
proposition,
c'est
l'administration indépendante qui représente, selon les traités, l'intérêt commun de tous les pays.
Mais cette administration, par contre, a un rôle politique
alors,
aussi.
Elle a un rôle
c'est
politique
pas une administration.
Parce que les traités ont fait en sorte que, et selon les pères fondateurs qui étaient derrière cela, il faisait en sorte que cette Commission européenne devait être en quelque sorte le futur gouvernement européen. Alors les États, au fur et à mesure que le temps a passé, les États ont voulu...
Surtout pas.
Et de toute façon, ils avaient quand même toujours le dernier mot. Mais avec la crise économique et financière, et surtout depuis que M. Delors est parti de Bruxelles, eh bien, on a eu un retour au nationalisme, un retour aux États et à moins de vision européenne. Et de plus en plus, ce sont les États qui ont bloqué la Commission dans ses propositions et les États qui désignent, qui nomment les commissaires européens et son président. Maintenant, c'est nouveau parce que le président de la Commission européenne est élu par le Parlement européen, mais jusqu'à ces derniers temps, eh bien, ils étaient tous désignés par les États. Et les États, à la suite de M. Delors, ont dit on ne veut plus jamais un M. Delors qui est trop puissant, on veut nommer des gens qui seront, en quelque sorte, qui exécuteront ce que nous, on a décidé. Donc il y a eu... avec notamment la crise économique et financière, et puis maintenant la crise des réfugiés, un renforcement des États qui font que eh bien, c'est M. Tusk qui prend un peu le devant de la scène par rapport à l'intérêt général, c'est-à-dire de représenté par la Commission européenne, voire la dimension démocratique représentée par le Parlement européen et son président allemand. Donc il y a des forces qui s'opposent dans la gestion européenne, ce qui est normal dans toute dimension démocratique. Et lorsqu'on entend dire l'Europe, c'est technocratique, c'est affreux, c'est des gens, on comprend rien à ce qu'ils font, il y a des décisions qui sont prises comme cela sans qu'il y ait ni des votes, c'est décidé en cachette. Non. En dépit de la complexité du système, qui n'est pas achevé, puisque si c'était achevé, ça devrait être une Europe à caractère fédéral. Mais actuellement, les décisions sont prises démocratiquement par le Parlement européen, conjointement avec les États représentés au sein du Conseil. Donc ceci fait un tout, et c'est important de le rappeler, parce que lorsque les choses ne vont pas à l'heure actuelle, on dit « c'est la faute à Bruxelles », et ce qui se passe, c'est que c'est toujours la faute, malheureusement, des États qui refusent de jouer le jeu européen.
Et alors, le président du Conseil, c'est-à-dire de l'ensemble des États, c'est là une présidence tournante. C'est cette présidence tournante
Tous les six mois, c'est la présidence des conseils de ministres spécialisés. Par exemple, le Conseil Affaires intérieures, le Conseil Économie-Finance. En revanche, il y a un président qui, lui, n'est pas tournant, est nommé pour 2 ans et demi, c'est M. Tusk, actuellement, qui, lui, représente les États au niveau du Conseil européen, qui est au-dessus des ministres. Mais ce sont toujours, dans la mouvance des États, ils sont logés à Bruxelles, dans le bâtiment qui représente les États, qui est le bâtiment du Conseil à Bruxelles.
Et donc, M. Donald Tusk est venu dire en Grèce, après avoir été aussi se promener en Croatie et dans les pays de la route des migrants, qu'il ne fallait pas de migrants économiques et que déjà l'accueil des réfugiés était très très difficile, donc on serait intransigeant sur les migrants économiques. Donc après la crise anglaise, eh bien, on peut parler de cette crise des réfugiés, puisque la Grèce est en première ligne et elle reçoit beaucoup de réfugiés alors que la Grèce était elle-même en difficulté. Donc se décharger sur la Grèce de ce problème des réfugiés est évidemment injuste et l'Europe, là, vient de prendre des décisions et notamment des décisions financières.
Oui, le président de la Commission européenne, le 2 mars, a annoncé qu'il allait faire en sorte de débloquer 700 millions d'euros en faveur des réfugiés, ou plus exactement en faveur des mesures d'appui pour l'accueil des réfugiés. Et évidemment, en première ligne, il s'agit de la Grèce, qui est actuellement à près de 100 000 personnes qui réclament l'asile pour aller s'installer dans le restant de l'Europe. Alors cette mesure est une mesure très importante. Ce sont des montants importants. Il y a dans un premier stade pratiquement 400 millions qui vont être débloqués en faveur de la Grèce. Et là, ce sont à travers les actions, les associations humanitaires, toutes les organisations non gouvernementales, la société civile, qui vont intervenir, qui seront soutenues pour l'achat d'abris, pour la fourniture de nourriture, pour les soins de santé, etc. Donc, ceci est nouveau, non pas parce qu'il n'y avait pas d'aide jusqu'à présent de l'Europe, il y a des fonds existants, mais là, il s'agit d'une nouvelle mesure avec la création d'un nouveau fonds dédié spécialement aux cas d'urgence. Alors la chose doit se finaliser parce qu'il faut qu'il y ait une révision budgétaire et tous les États ont dit qu'ils allaient suivre. Ils vont suivre d'autant mieux pour donner leur accord que les fonds en question vont être récupérés sans qu'il y ait par les États à mettre la main à la poche en quelque sorte pour compléter l'argent en question. Donc c'est par la réaffectation budgétaire d'un certain nombre de fonds. Alors ceci est quand même très important et aussi il faudrait ajouter que il faut bien faire la différence, on l'a déjà dit à l'une ou l'autre occasion lors de cette émission, il faut bien faire la différence entre réfugiés et migrants économiques. Parce qu'il se trouve que dans tous ces flux de personnes qui transitent notamment par la Turquie et ensuite qui arrivent en Grèce, il y a mélangé des réfugiés, c'est-à-dire ceux qui ont le droit, selon le droit international, à demander le droit d'asile pour être protégés, et ceux qui viennent, qui se présentent au milieu d'eux pour essayer d'avoir un job, un emploi en Europe, parce que dans leur propre pays, ils ne le trouvent pas. Donc ce tri est à opérer, et ce tri est à opérer à la frontière extérieure de l'Europe, c'est-à-dire à l'entrée en Grèce quand ils se viennent par les côtes turques. C'est la raison pour laquelle la semaine prochaine, le 7 mars, il y a prévu une réunion en Turquie pour un sommet entre l'Europe et la Turquie pour essayer de gérer mieux cet afflux de réfugiés venant de Turquie. Et également, on en reparlera lors du sommet du mois de mars, sommet européen à Bruxelles, les 17 et 18 mars prochains, pour mieux gérer ce qui est fait notamment aux frontières extérieures en révisant les accords de Dublin qui obligent les pays frontaliers à s'occuper seuls de la protection de la frontière. Donc il y a derrière tout cela
une mise à plat des choses,
mais aussi surtout des actions à entreprendre d'urgence. Non seulement il faut au plan financier, mais c'est-à-dire qu'il faut absolument que les États de l'intérieur, et notamment de l'Europe du Nord, fassent preuve de solidarité et pour pas que tout repose sur le seul dos, notamment de la Grèce du côté Est, de l'Italie côté Sud, voire de l'Espagne et la France côté Ouest. Tout ceci est à revoir. Et pour l'instant, on doit malheureusement constater qu'il y a absolument pas de solidarité entre les pays et que beaucoup de pays, comme par exemple les Hongrois, les Polonais, les Hongrois, les Polonais, quand on dit cela, ce ne sont pas les peuples, mais leurs représentants, sont farouchement opposés à partager le fardeau qui pèse uniquement sur quelques-uns. Donc on est là aussi confronté à la vision de l'Europe des pères fondateurs qui avaient misé sur la paix, sur la solidarité, et pour cela il faut une vision, c'est-à-dire qu'il faut à la fois de l'argent, donc un budget européen, il faut une défense européenne pour défendre nos propres frontières, cette fameuse défense européenne qui a été refusée en 1954 par la France, honte à la France à l'époque, et il faut absolument remettre à plat tout ceci parce qu'il y va de notre avenir à chacun.
Alors un dernier point qui rejoint l'actualité, c'est ce qui concerne l'agriculture, puisque au moment où nous enregistrons cette émission, le salon de l'agriculture se tient à Paris, et là on peut voir, en parlant de cette actualité, on peut voir aussi qu'il y a de 6 différentes manières de voir l'agriculture que, évidemment, on comprend les difficultés des agriculteurs français. Mais ceci dit, ça pose aussi la question de, là aussi, quelle vision commune, parce que, de fait, en intégrant les pays d'Europe de l'Est, je pense à au PECO, enfin bon, les pays, la Hongrie, la Pologne, etc., lorsqu'ils ont transformé leur agriculture, évidemment, ils ont pris l'agriculture la plus moderne, mais en même temps, celle qui est strictement financière. Donc là, la question n'est pas quel modèle économique, strictement économique ou strictement financier, mais c'est aussi qu'est-ce que l'on attend de l'économie, qu'est-ce que l'on attend de l'agriculture. Parce que si c'est simplement faire des élevages de 1000 vaches pour faire du lait à bas prix, bon, c'est vrai que sur le moment, chacun allant faire ses courses trouve que c'est pas mal du lait à 0,66 euros le litre. Mais par ailleurs, ça veut dire que les agricultures sont effondrées et ça veut dire que les agriculteurs sont à la soupe populaire et ça veut dire que cela accroît le nombre de chômeurs. Donc il faudrait quand même une réflexion d'ensemble pour rappeler quand même que une agriculture de qualité qui donne de l'emploi, des activités de qualité qui donnent de l'emploi, ça veut dire aussi des consommateurs qui réfléchissent à ce qu'ils achètent, à l'économie. Si on achète chinois, il ne faut pas se plaindre après qu'il n'y ait pas d'emploi en France. Enfin, je crois que là, il y a quelque chose qui est un peu incohérent. Donc, la crise agricole renvoie au choix économique que l'on fait et aussi au choix, non pas simplement économique, mais au choix culturel, au choix politique, dans le sens noble, pas dans le sens « je suis du parti machin, tu es du parti truc ».
Vous avez tout à fait raison. Et puis ici, nous sommes dans une terre agricole au sein de la Beauce. Donc c'est important de souligner ce que vous venez d'indiquer. J'aimerais rappeler d'ailleurs pour commencer que là aussi, on accuse l'Europe. N'oublions pas que si l'agriculture française a pu se développer pour devenir un acteur majeur au plan international, c'est grâce à l'Europe et grâce à la politique agricole commune. Ça, on l'oublie souvent. Alors, il est vrai qu'il a fallu que ce système qui était fondé sur des prix garantis avec la mise sous forme de stock de tout ce qui pouvait être invendu, avait atteint ses limites parce que, évidemment, on ne pouvait pas garder des stocks éternellement et garantir des prix et qui faisaient en sorte que tous producteurs, qu'ils soient agriculteurs d'ailleurs ou autres, évidemment étaient par ce biais-là, attirés à produire.
Oui, donc là, c'est bien une question de financiarisation de l'agriculture.
Mais aussi par une déviation des règles. Donc il a fallu réviser cette politique pour faire en sorte de réguler en quelque sorte les marchés. Alors il se trouve que malheureusement le contexte actuel a fait en sorte que à l'exportation, et notamment les produits français à l'exportation, il y en avait une part assez importante, notamment vers la Russie, vers d'autres pays, il y a un embargo, d'abord européen, vis-à-vis de la Russie à cause de l'Ukraine. Évidemment, les Russes ne se sont pas privés de faire un contre-embargo dans l'autre sens et qui met à mal pas mal de produits français qui étaient exportés traditionnellement vers la Russie. Mais ceci étant, les Allemands et certains pays de l'Est ont encore plus à souffrir de cet embargo russe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous l'avez très bien souligné, il n'y a pas d'abord de remède miracle, hein, il faut quand même dire les choses en face. Mais il y a, de la part des consommateurs, une attitude à avoir pour soutenir nos propres produits. Il y a aussi, il faut le souligner, une approche, par exemple, du côté de la qualité à travers le bio. Il est assez remarquable de constater que beaucoup d'agriculteurs qui se sont mis sur le bio n'ont pas les soucis de ceux qui ne le sont pas actuellement. Il y a pas mal d'exemples qui ont été mis, même ces derniers temps, nous sommes en Beauce, sur le plan des médias, d'exemples d'agriculteurs qui ont particulièrement réussi, qui n'ont pas de soucis de prix, qui n'ont pas de soucis de distribution. Il y a dans pas mal de domaines des voies évidemment à rechercher à travers les coopératives pour essayer de casser la mainmise des agences de distribution des produits qui sont là comme des dictatures qui imposent en quelque sorte aux producteurs leurs tarifs vers le toujours plus bas. Il y a au niveau européen, bien sûr, à respecter un certain nombre de règles. Il y a au niveau européen à mettre en place des systèmes de régulation différents. Et ceci se négocie actuellement. Ça fait déjà plusieurs mois que c'est négocié à Bruxelles. Donc on espère que tout cela va déboucher sur quelque chose. Mais autrement, il n'y a pas 50 miracles. Il y a à voir en ce qui concerne les prix d'intervention, à revoir en ce qui concerne le stockage, à revoir éventuellement les questions d'embargo extérieur. Il y a à examiner les questions d'étiquetage, à négocier avec les distributeurs et également voir un fonds de soutien. Donc c'est extrêmement complexe parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui agissent dans ce domaine et nous espérons que précisément là encore, la réponse va être le sauvetage par l'Europe et non pas au plan national, parce qu'on ne voit pas comment seule la France, avec ce qu'elle produit, pourrait s'enfermer dans un domaine soi-disant protégé. Cela n'est pas possible, c'est à travers l'Europe que l'on va pouvoir obtenir la solution à nos problèmes.
Donc un supplément d'âme, donc un arrêt du tout finance. Et
avec une responsabilité des citoyens, parce que c'est nous qui faisons en définitive et en dernier ressort, le prix en choisissant la marchandise, le produit de qualité que nous voulons à son prix correct.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. C'est aux citoyens que revient la responsabilité de construire une Europe qui soit plus humaine, plus sociale et qui donne du sens à l'action politique. Aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous. Au revoir.